おかしいおかしい、
11 h 40 Akipushi Okatanga, 19h20, Akinshasa, dialogue entre Congolais, Jean-Claude Sumbakamanga.
Bonsoir, mesures gouvernementales sur l'emploi, salaire minimum de $100 au Katanga, fermeture de magasins à 16h, en plus d'une pause à Kinshasa. Quelles sont les conséquences de ces décisions des autorités congolaises sur les employés et les employeurs? Et quelle stratégie pour protéger l'emploi en RDC? C'est de cela que nous allons parler dans ce dialogue en congolais avec nos invités, messieurs André Malachi, secrétaire général du syndicat Alliance pour le bien-être des travailleurs. Nous aurons aussi Marc Atibou Salé, directeur chef de département social de la Fédération des entreprises du Congo, ainsi que Boniface Bola, les secrétaires générales au travail. Des auditeurs s'impliquent dans ce débat, c'est le cas de Jean-Marie Bissimois d'Ouvira au Sud Kivu. Pour lui, exiger $100 ou fermer les magasins à 18h, c'est bien, mais en quoi cela change la vie d'employés si l'État lui-même ne donne pas l'exemple? Depuis Kisangani, Nestor Mirugi salue la mesure du gouverneur Moïse Katumbi, mais conseille l'étude des dossiers cas par cas pour éviter de perdre des investisseurs. Adrien Ilobakwe de Kananga au Kassai occidental, voilà. Pour lui, l'application même de ces mesures, il pense à ce sujet que ces décisions n'auront pas d'impact s'il n'y a pas de commission de suivi pour toutes ces décisions. Nous y reviendrons avec nos invités, je vous rappelle, André Mahachi, syndicaliste et travailleur, Boniface Bola, secrétaire général au travail, et Marc Atibou Salé de la FEC.
Vous voulez participer à l'émission? Envoyez vos SMS gratuitement de lundi à vendredi de 14h à 20h heure de Kinshasa au 099-8999-222.
À Kinshasa, les magasins de l'avenue du commerce ont rouvert leurs portes mardi dernier le matin. C'est après le mouvement des travailleurs qui avaient paralysé la veille les activités de tous ces magasins. Ils avaient manifesté leur mécontentement par une marche jusqu'à l'hôtel de ville et au ministère du Travail. Ils réclamaient des salaires décents et le respect des horaires de travail fixés par le ministère du Travail. Il s'agit de l'heure de midi pour la pause et 16h pour la fermeture des magasins. Pour le moment, l'avenue du commerce à Kinshasa a retrouvé son ambiance habituelle de ses magasins. Vendeurs et acheteurs sont au rendez-vous. Mais outre leurs revendications des heures du travail, ces travailleurs réclamaient aussi le paiement d'un salaire plus décent. Un de ces travailleurs s'exprime au micro de Blaise Shindani Kambala.
La FEC, qui représente les employeurs, ça disait, ils ont écrit même les noms de l'hôtel de ville dans les nouveaux communiqués. Et le ministre du Travail, signé par Ange Moutiala, il nous dit qu'à 12h, il n'y a pas repos. Et les samedis, les magasins s'ouvrent à 10h et ça se ferme à 15h. Nous, nous ne voulons pas ça. C'est pour ça que nous pensons revendiquer cela. Et nous revendiquons aussi le protocole d'accord qu'on a signé avec le ministère du Travail, avec la FEC, avec la délégation des travailleurs en 2005. Nous voulons l'application de ce protocole-là. La revendication du salaire, c'est tout la base et les conditions du travail. Ces communiqués précisent les temps comme si de 8h le travail commence et ça se ferme à 12h. De 12h à 12h30, c'est le repos. Et maintenant, on reprend à 12h30 pour fermer à 16h08. Du lundi au vendredi, ça dit chaque jour. Les samedis, de 8h à 13h, comme précisait l'ancien communiqué.
De son côté, la ministre du Travail et de la Prévention sociale confirme la mise en application sans faille du protocole d'accord signé entre son ministère et les employeurs. Marie-Ange Loukiana annonce en outre la mise en place d'une commission qui va se pencher sur le contrat des travailleurs. On l'écoute au micro de Babel Pongo.
Mon salaire est allé commander à 8h.
Le travail va de 8 à 16 heures de lundi à vendredi avec une pause de 30 minutes. De 12 à 12h30, tous les magasins doivent être fermés pour la pause. Le samedi, le travail ira de 8 à 13 heures parce que le gouverneur a prévu des travaux communautaires des après-midi. Nous mettons en place des délégations mixtes qui comprendront aussi des élus de Kinshasa pour contrôler les conditions de travail. Les délégations vont premièrement examiner les contrats de travail. Il faut qu'on ne fasse signer de contrat de travail. Deuxièmement, nous demandons au gouverneur de nous accorder un terrain pour qu'on vous construise des toilettes dignes de ce nom. Troisièmement, il faudra revoir vos conditions salariales. Vos salaires doivent être réduits à la hausse. Il faut qu'on revalorise le SMIC car pour l'heure, le SMIC n'est pas bien appliqué.
Alors, première question à André Mahachi. Vous êtes secrétaire général du syndicat Alliance pour le bien-être des travailleurs. Donc, vous représentez les travailleurs. Est-ce qu'on peut dire que ces mesures s'appliquent?
Je venais de tenter de dire que ces mesures viennent de s'appliquer. Et ça s'est appliqué pour pendant 3 jours. Et le quatrième jour qu'il y a eu un autre document qui est apparu sur le marché, ce document avait des zones d'ombre que je pouvais déceler, qui étaient les repos et les devenaient facultatifs à l'aide qu'on pouvait et non collectif. De deux, le samedi, le service ne devait commencer qu'à 10 heures et puis se terminer à 15 heures, au lieu de 8 heures à 13 heures. Voilà tout changement brusque en train de compétence. Voilà ce qu'il y a eu. Pour le moment, on est revenu à l'horaire de première, l'horaire de la semaine avant.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire le repos de. En fait, le travail commence à 8 heures pour avoir le repos à 12 heures, de 12 heures à 12 heures 30. Tout le monde collectivement, tout le monde sort. Et à 16 heures, on arrête le travail.
Donc on peut dire que la mesure s'applique.
La musique s'applique pour le moment.
Voilà. Est-ce que du côté des employés, là, nous retournons vers M. Marc Atibou Salé, vous êtes directeur chef de département social de la FEC, Fédération des entreprises du Congo. Comment on accueille cette mesure au niveau des opérateurs économiques, ici, dans ce cas, donc des employeurs, de tous ces agents qui ont manifesté?
Merci pour m'avoir associé à cette émission. Je voudrais, avant de répondre à votre question, réagir par rapport à la déclaration d'un travailleur que vous avez fait passer au début de l'émission, qui a dit que sur un protocole d'accord où la FEC aurait ajouté l'hôtel de ville comme ayant été présent lors de cette réunion, il devait retirer cette parole parce que j'ai confirmé effectivement que les mardis, c'était les mardis la semaine passée, quand son excellence madame la ministre nous a reçus, elle a pris soin d'associer à cette réunion son collègue de l'économie, son collègue de l'industrie, la ville de Kinshasa qui était représentée par le vice-gouverneur lui-même et qui s'était fait accompagner par la ministre provinciale chargée de l'emploi.
Oui, là c'est au niveau de la composition de la commission,
mais est-ce que l'application de la mesure selon nos membres, ils appliquent la mesure? Ils appliquent convenablement la mesure et d'ailleurs nous n'avons pas compris pourquoi il y avait ici ce soulèvement qui s'est fait en dehors de la procédure qui est prévue par les codes du travail, parce que le monde du travail c'est le dialogue social. En fait, j'ai noté
que... Content de l'appliquer ou parce qu'ils sont forcés de l'appliquer?
Ils ne sont pas forcés de l'appliquer dans la mesure où il y a un cadre. Les cadres dans lesquels nous nous situons, c'est les protocoles d'accord que nous avons négocié avec la partie syndicale en 2005 et qui avait fixé cet horaire de travail. Mais qui a été appliqué, mais ces protocoles d'accord, on les lit à moitié cet article, parce qu'il y a outre l'horaire de travail, il y a un engagement que l'hôtel de ville avait pris pour pouvoir désengorger les rues qui se trouvent devant les magasins, parce que c'est toujours engorgé, afin de permettre l'application aisée de cet horaire de travail, car les opérateurs économiques ont des opérations d'approvisionnement, d'enlèvement des marchandises, et ils appliquent cet horaire de travail, ils ferment à 12 heures, mais ce que nous déplorons, c'est qu'il y a des personnes qui, à 12 heures, sillonnent les magasins, qui, à 16 heures, sillonnent les magasins, et ne veulent même pas que le gérant ou le propriétaire des magasins reste dans son magasin, il arrête.
Parce qu'il faut appliquer la mesure. Enfin.
La mesure, c'est pour les travailleurs. Mais le propriétaire des magasins n'est pas forcé de quitter son magasin à 12 heures ni à 16 heures.
Donc là,
et en plus, la loi prévoit les conditions dans lesquelles on peut continuer à travailler au-delà des heures normales. Mmh. Parce que ici, il faut faire la différence entre la durée du travail et l'horaire du travail. Mmh. L'horaire du travail ne doit pas normalement être le même pour toutes les entreprises. Mmh. Mais dans ces cadres ici, du secteur commerce et la ville de Kinshasa particulièrement, c'est un cas particulier, nous avons signé un protocole d'accord qui s'applique uniquement au secteur commerce de la ville de Kinshasa dans les magasins qui n'ont pas des conventions collectives propres.
Voilà. On va écouter le secrétaire général au travail, Boniface Bola. Vous nous suivez, vous êtes en ligne?
Je suis bien en ligne, monsieur le journaliste.
Ouais. Comment vous pouvez réagir après tout ce que vous venez d'entendre?
D'après tout ce que je viens d'entendre, je vous confirme, tel que les deux partenaires l'ont dit, la mesure s'applique bel et bien. ça ne pouvait être autrement, d'autant plus que nous, vous, comme ils vous ont rappelé, un protocole d'accord a été signé entre parties depuis 2005. Et dans ce même protocole d'accord, l'hôtel de ville était bel et bien présent depuis 2005. Et chacune des parties avait une mission spéciale. La nôtre étant constitutionnellement et selon les attributions de décret présidentiel de faire appliquer la loi. Le protocole d'accord étant la loi des partis, nous devrions y veiller à son application. Et c'est ce que le ministère du Travail l'a fait à travers le premier communiqué, c'est-à-dire rappeler aux partis signataires de ce protocole d'accord d'appliquer les clauses de ce protocole d'accord qui concernait plus précisément l'organisation des élections syndicales dans les établissements où celles-ci n'étaient pas encore organisées et l'application de cet horaire de travail qui fait l'objet de changes d'aujourd'hui.
Oui, mais comment vous expliquez les abus dont parle Marc Atibou Salé, notamment des gens qui passent pour faire sortir des magasins, même les propriétaires aux heures de midi?
Raison pour laquelle, dans le second communiqué ou le dernier, nous avons dit que toute intervention qui ne proviendrait pas des inspecteurs du travail était proscrite. Nous, au ministère du Travail, nous n'avons comme service technique qui doit veiller à l'application de la loi, c'est l'inspection du travail. Et en fait, en matière du travail, il n'y a que ce service qui doit veiller à l'application de la loi.
Oui, mais Boniface,
lorsqu'on nous cite des personnes qui passaient avec des arrestations, de convocations dans les commissariats, et ainsi de suite, vous voyez qu'il y a eu quand même un débordement.
Oui, mais qu'est-ce que vous avez attendu depuis 2005 pour faire appliquer ce protocole? Est-ce que vous n'attendiez que la marche?
Quelle marche? Mais il n'y a pas eu marche, mon Dieu.
Ouais, les travailleurs ont manifesté.
Quand nous avons tiré le premier communiqué, il n'y avait pas marche. Hein? C'est un problème de conscience, de la volonté politique, tout simplement.
Donc, vous approuvez que, vous confirmez que vous, c'est vous, en fait, qui avez fait appliquer et que vous n'avez pas attendu la manifestation des agents?
Pas du tout. Pas du tout, parce que nous avons reçu les mémos des travailleurs bien avant toutes ces manifestations, une manifestation qui n'avait pas sa raison d'être, tel que le représentant de l'AFEC venait de vous le dire. Ça ne relève pas de nos procédures. Hein? Et pour preuve est qu'aujourd'hui, nous avons reçu, à la demande de ce groupe de travailleurs, qui se sont indignés contre cette marche et ils sont venus présenter leurs excuses au ministère du Travail à travers Madame la ministre du Travail de la Prévoyance sociale. Ils sont venus te présenter le pardon parce que en matière du travail, cette procédure n'existe pas.
Oui, il y a André Mahati qui n'est pas d'accord avec vous, le syndicaliste des travailleurs. Oui, André.
En quel propos?
Bon, de toutes les façons, je n'ai pas dit que je ne suis pas d'accord.
Vous avez aussi la tête.
Il y a des petites zones d'ombre qu'il faut dire. Sur le fait de la marche, la soi-disant marche, évidemment, il y a eu le déplacement de travailleurs. C'est vrai que le message n'a pas été vulgarisé de la manière qu'il pouvait. Les travailleurs sont sortis de la manière. D'abord, les Indiens, les Pakistanais, les consorts. Vous savez que ces employeurs n'ont jamais eu les titres, ça je suis en train de le dire avec courage.
N'ont jamais
reconnu nos lois. Et ils ont toujours foulé nos lois au pied.
Mais ils ne sont pas les seuls employeurs entre nous.
Oui, ils ne sont pas les seuls, mais certains qui sont dans d'autres secteurs essayent de faire l'effort de tel à connaître que nous sommes les employeurs, il y a de l'autre côté les travailleurs, d'où nous sommes tous les partenaires.
Voilà, donc il ne faut pas stigmatiser.
Oui, c'est un point de vue que je suis en train de mettre sur la question que vous posez. Le protocole d'accord dont nous faisons allusion, de 2005, ce protocole d'accord a été bel et bien signé par nous tous. Mais qu'il a été signé, vous pourrez voir sur 400 magasins ou 400 entreprises dans le secteur de commerce, vous trouverez au moins 8 ou 10
qui ont...
Qui en ont appliqué. Et cette application...
Et pourquoi vous avez attendu tout ce temps pour réclamer aujourd'hui que ça soit appliqué?
Je voudrais vous dire une chose que... Quand on met le grain d'arachide sur ce sol, ça ne germe pas le même jour. Hein. La gangrène qui a été dans le milieu de travail a essayé de faire le travail. Et enfin, les travailleurs ont compris que nous étions asphyxiés.
Oui, mais le grain de maïs ne fait pas deux ans quand même pour pousser.
Oui.
Vous avez attendu deux ans.
Bon, non, le problème, revenons sur le point, le problème que le secrétaire général Bola vient de parler, c'est là où on sommes. C'est l'état du personnel du secteur du commerce. D'abord, de un, les gens, la plupart des travailleurs ne sont pas syndiqués. Et ceux qui ne sont pas syndiqués n'ont pas la matière sociale, ils ne connaissent pas là où ils doivent fouler leur nez et auprès de l'équipe poser la question.
C'est de votre faute parce que vous êtes syndicaliste. Et vous n'avez pas fait votre travail.
Attendez, je vais vous dire. Le syndicat de l'employeur est avec nous ici. Il a fait le même effort que nous pour que les élections sociales aient lieu dans ce fait de commerce depuis 2005. Hélas, c'est certain, la plupart, malheureusement, ils ne sont pas affiliés chez eux, mais cela ne s'était jamais fait dans au moins 6-10 entreprises, il y a au moins une seule entreprise.
Oui, on va revenir dans le débat, André Mahati. Le constat est que il y a eu un protocole depuis 2005 et que son application a pris deux ans quand même pour que la plupart des magasins l'appliquent aujourd'hui. Nous allons voir du côté de l'analyste Lems Kamwanya à propos des mesures qui viennent d'être prises, notamment l'application de ce protocole d'accord. Pour lui, c'est bon de prendre ces mesures, mais il pense qu'il faut y aller progressivement pour ne pas décourager les investisseurs. On écoute Lems Kamwanya au micro de Daniel Sambindoni.
À Kinshasa, ils estiment que le fait qu'on veut les imposer une pause d'une heure de fermer les magasins, ils enregistrent des manques à gagner et cela risque d'aboutir à une détérioration des relations entre les employés et leurs travailleurs. Bon, moi, je ne pense pas que cela sera un motif pour décourager les investisseurs, non. Pour ce qui concerne les opérateurs miniers à qui on demande de payer 100 dollars à la population, je pense aussi qu'il ne faudrait pas qu'ils donnent l'impression de se sentir dans un pays où il n'y a pas un respect des lois, où il se pose vraiment un problème, c'est dire nous sommes dans un état démocratique qui pourrait les décourager ou chercher parfois à infliger de manière indirecte des sanctions à la population. Vous savez, on le dit bien, quand deux éléphants se battent, c'est l'herbe qui en pâtit. Et dans ces conditions, c'est souvent les travailleurs qui sont parfois placés dans des conditions telles qu'il peut être victime de tous les coups ou de tous les problèmes ressentis par un employeur lorsqu'il suppose que les autorités publiques n'agissent pas de manière raisonnée à son endroit. Mais je ne pense pas que cela puisse avoir un impact réel sur un quelconque attrait à l'investissement.
Oui. Marc Atibou, vous savez, vous êtes de la FEC, vous occupez du département social. Vous avez dit que les employeurs, donc responsables de ces magasins, sont contents apparemment d'appliquer ce protocole d'accord. Mais est-ce qu'il n'y a pas de conséquences dans leurs affaires en appliquant notamment la pause? Bon, ils n'étaient pas habitués à appliquer cette pause, fermée à 16 heures. Est-ce qu'ils ne ressentent pas le coût de ces mesures aujourd'hui?
Non, pas du tout, dans la mesure où nous avions convenu en 2005 de cet horaire avec une pause de 30 minutes. La seule chose que les employeurs de ce secteur avaient demandé, et c'est que la ministre avait bien voulu accorder, c'est-à-dire c'était une nuance, c'est qu'ils étaient obligés, donc ils étaient obligés d'accorder la pause de 30 minutes, mais ils avaient dit que pendant ces temps, les 30 minutes pendant lesquelles on ferme les magasins, il y a entre-temps certains clients, ou par exemple les clients comme vous qui travaillez, si vous avez une pause à midi, vous avez l'occasion d'aller dans les magasins pour faire un achat. Alors, ils avaient dit qu'au lieu de fermer hermétiquement, mettre les cadenas sur le magasin, ils étaient d'accord d'accorder la pause par vague, s'il est faux. Et donc, c'était un choix qu'il fallait opérer entre envoyer tout le monde à la pause ou les faire progressivement. Donc, disons que les employeurs de ce secteur, ils n'ont jamais dit non, ils ne sont pas contents. Mais ce qu'il faut avouer, c'est le fait que quand on passe devant les magasins, enfin, chaque magasin qui est à 16 heures, tout le monde doit sortir, y compris le propriétaire des magasins, ça a des conséquences sur les affaires.
Lesquelles notamment?
Les conséquences, ce sont des manques à gagner. Ce sont des manques à gagner. Les conséquences, c'est un manque d'approvisionnement. Parce que vous connaissez très bien, je sais que vous êtes journaliste, vous passez souvent du côté du marché central, vous savez que même pour passer avec un pouce-pouce dans les rues du secteur du commerce, c'est très difficile pendant la journée. Or, étant donné qu'il y a cette difficulté, le seul moment où ils peuvent approvisionner les magasins, c'est soit très tôt, avant que tous les commerçants qui s'installent devant les magasins ne puissent arriver, soit après la fermeture du marché. Et si vous leur interdisez d'accéder à leurs magasins à ce moment-là, c'est-à-dire à un certain moment, nous allons arriver à un blocage où ils ne seront plus approvisionnés les magasins et ils ne seront plus vendre. Et donc, ce sont les emplois qui vont être perdus. Donc, il y a un manque à gagner certains. Et deuxièmement, c'est un découragement des autres investisseurs qui peuvent venir dans la, qui peuvent avoir la,
l'intention
de venir au Congo, à la République démocratique du Congo, quand ils se trouvent face à de telles réalités, ils peuvent se décourager et tourner les dos au Congo pour aller investir ailleurs.
Voilà. Boniface Bola, vous qui êtes secrétaire général au travail, comment faire justement pour éviter ce qu'on peut appeler dérapage de la part de ceux qui appliquent ces mesures?
C'est question d'interpeller ceux qui envoient, ceux qui créent la tracasserie. Et là, nous sommes quand même un pays organisé. C'est ainsi que, lors de la dernière rencontre, on avait associé l'autorité de la ville, comme nous l'avons fait en 2005. Et l'autorité de la ville devait s'impliquer parce que la matière lui concernait aussi, et pour essayer un peu de faciliter la tâche aux opérateurs économiques.
C'est par le ministère du Travail, non?
Le ministère du Travail, comme je vous avais dit, il y a les inspecteurs du travail qui sont là. Et surtout ceux du ressort de Kinshasa, qui devaient bien faire le travail, le suivi. Et pas par la violence, ni intimidation, moins encore par tracasserie.
Et là, vous venez de suivre qu'il y a des tracasseries. Qu'est-ce que vous allez faire?
Et là, vous savez qu'à toute chose, malheur est bon. On a traîné cette foule vers le ministère du Travail, et lors du face-à-face avec son Excellence Madame la Ministre, la foule a pu comprendre réellement la quintessence de toute cette décision-là. Et elle est rentrée rassurée. C'est ce que la preuve est qu'aujourd'hui, leurs délégués sont venus nous féliciter son Excellence et la soutenir, l'encourager à poursuivre les différentes réformes.
Oui, mais qu'est-ce que vous allez faire?
J'ai posé la question.
Qu'est-ce que vous allez faire?
Il y a des commissions mixtes qui seront mises sur pied pour essayer d'enrayer ces mal-là.
D'enrayer les dérapages, donc?
Sûrement.
Voilà. Après Kinshasa, allons au Katanga. Toujours dans le domaine de l'emploi, le gouverneur de cette province, Moïse Katumbi, veille en ce moment à l'application de sa mesure prise depuis février dernier, mesure qui exige aux employeurs de payer le salaire minimum interprofessionnel garanti, le SMIC, de $100 américains. Détail, Paul Kaboba.
C'est au cours d'un meeting populaire tenu au mois de février 2007, place de la Poste à Lubumbashi, que Moïse Katumbi Tshapwe, alors gouverneur élu, avait lancé l'idée de voir l'employé le moins cher toucher au moins $100 américains. L'idée, si elle avait séduit les masses ouvrières, elle avait fait grincer les dents au patron des entreprises. La Fédération des entreprises du Congo, section du Katanga, dit alors tout bas que cette idée allait étouffer les sociétés. Une fois investi du pouvoir comme gouverneur, c'était au mois de mars 2007, Moïse Katumbi Tshapwe déclare que le salaire minimum de $100 américains est obligatoire. Le nouveau gouverneur se rend en personne dans plusieurs entreprises pour exiger le paiement de ce SMIC. Moïse Katumbi Tshapwe utilise alors la carotte et le bâton. Il menace de fermer les entreprises qui ne vont pas obtempérer. Il promet que celles qui vont suivre son idée auront toute la protection de l'État. Quelques grandes entreprises franchissent le pas. Forest, Chemaf, Henri Mining, Tenke Fugurume Mining, Ruachi Mining. Certaines vont jusqu'à $220 américains pour le moins payé. La grande Jekamine leur emboîte péniblement le pas. C'était après une grève sauvage de ses employés de Kolwezi. La grande partie des entreprises chinoises et indiennes sont néanmoins restées réticentes à cette idée. Certaines d'entre elles payent 15 000 francs congolais par mois. Lubumbashi, Paul Kaboba, pour Dialogue entre Congolais.
Alors Marc Atibou Salé, vous qui êtes directeur à la FEC, comment vous réagissez à la mesure du gouverneur du Katanga?
La première chose d'abord, c'est de saluer les soucis du gouverneur de la province du Katanga pour les soucis qu'il a d'améliorer les conditions sociales de sa population.
Oui, mais en tant qu'employeur.
J'y arrive. Cependant, Il faut dire que nous sommes dans un pays des droits. Et les pays des droits, c'est-à-dire où l'application des lois est stricte pour tout le monde. Et c'est ce qui fait que c'est une des conditions aussi pour attirer les investisseurs. Les SMIG, donc les salaires minimums interprofessionnels garantis, c'est une compétence qui est réservée aux chefs de l'État. Donc il n'y a que les chefs de l'État qui peuvent fixer les SMIG par une ordonnance après une étude préalablement réalisée par une commission tripartite. Entre parenthèses, dans le monde du travail, nous travaillons toujours en tripartisme, c'est-à-dire les représentants du gouvernement, les représentants des syndicats des travailleurs et les représentants des syndicats des employeurs. C'est sur base de cette étude qui prend des critères en compte, les critères sociaux, les critères économiques, la vie des travailleurs, la vie de la population en général et la capacité de paiement des employés.
Est-ce que vous saluez ce SMIG ou pas? Du moins,
lesquels? Bon, il n'y a qu'un seul SMIG. Actuellement, il n'y a qu'un seul SMIG fixé en juillet 2002 par les chefs de l'État. Aucune autre personne, aucune autre autorité actuellement n'a pouvoir de fixer un SMIG.
Bon, est-ce que vous saluez le salaire minimum fixé par, à 100 dollars par le gouverneur Moïse Katumbi?
Je ne peux pas les saluer parce que ce n'est pas l'objet d'une étude. Une étude tout à fait scientifique, et quand on fixe un SMIC, il faut vous assurer que vous, journaliste, vous serez également en mesure de payer 100 dollars à votre domestique et à votre sentinelle, parce que vous êtes concerné aussi, quand on parle du SMIC.
Donc ça, ça pénalise les employeurs.
Je ne dis pas que ça pénalise les employeurs. Je dis qu'il faut réaliser une étude conformément aux dispositions de la loi, parce qu'il y a une loi Code du travail. Il faut voir la possibilité de paiement des entreprises pour pouvoir payer ces SMIC. Il ne faut pas prendre une mesure qui peut décourager. Il ne faut pas aussi et surtout créer deux zones salariales ou plusieurs zones salariales dans les pays. La loi également prohibe la création de plusieurs zones salariales. Donc nous ne sommes pas contre la révision des SMIC. Mais cela doit suivre la procédure telle que fixée par la loi et la décision doit être prise par l'autorité compétente telle que la loi est fixée.
Voilà, on va justement avoir le point de vue de l'autorité, c'est Boniface Bola, secrétaire général au travail. Réaction, M. Boniface.
Quant au problème du SMIG, monsieur le journaliste, je vous dis, il n'y a que l'autorité du chef de l'État qui fixe le SMIG. Et comme vous avez si bien rappelé, depuis que ce SMIG a été restauré par le décret du chef de l'État, il y a une commission tripartite qui a été mise sur pied et qui devait se retrouver chaque mois de janvier pour la réévaluation de ce SMIG en vue de l'adapter aux réalités actuelles.
Oui, bon, parce que voilà, si ce n'est pas un secret, il est de combien ce SMIG?
Le SMIG au départ, c'était l'équivalent de 1 dollar. En 2002, c'était 335 francs congolais. Et selon les études qui ont été menées préalablement avant la fixation de ce SMIG-là, je vous dis, mon frère, mon partenaire à Tibouela, si on pouvait appliquer le SMIG scientifique que nous avons réalisé à travers des études sur le terrain, ce serait fermer toutes les entreprises de notre République. Ne fût-ce que pour le panier type ménagère d'une famille de 4 personnes. Mais l'action que le gouverneur de la province du Katanga vient d'inaugurer, je crois, devrait être interprétée autrement. Lorsqu'on veut parler de 100 dollars, selon les renseignements à notre possession, c'est l'ensemble de la rémunération. Et ce n'est pas le SMIG. Le SMIG représente le salaire de base. Et dans ce pays, avoir un salaire de base de 100 dollars, vraiment, c'est un problème que nous sommes en train d'étudier et que, à travers la commission qui a été mise sur pied, nous sommes en train maintenant de mener les études. Nous attendons que le gouvernement mette à notre disposition le budget conséquent pour que nous puissions mener ces études à travers toute la République. Ne fût-ce qu'au regard des données que nous avons pour la ville de Kinshasa, ce ne serait pas possible.
Mais est-ce que vous allez vous pencher sur ce dossier
de 100 dollars à tout à tous les travailleurs, c'est-à-dire le gouverneur qui demande à ne pas payer moins de 100 dollars à tous les travailleurs. Est-ce que vous allez vous pencher sur ce dossier?
Pour la moindre des choses que nous pouvons dire, c'est que en matière salariale, comme le collègue Atibo a évoqué, ça se négocie. Le salaire fait partie des éléments d'un contrat de travail et ça doit se négocier entre le contrat, c'est-à-dire l'employé et l'employeur.
Mais là, c'est pas un contrat.
Ça ne se fait pas de l'arbitraire, s'il vous plaît.
Mais est-ce que vous allez vous impliquer?
Nous sommes déjà impliqués puisque déjà au niveau du Katanga, nous avons donné des instructions à nos services qui sont là-bas d'accompagner le gouverneur, de lui porter notre expertise pour que cela soit une descente en douceur.
Oui. Alors, André Mahati, vous qui représentez les travailleurs, j'imagine que vous devez être content d'une telle mesure.
La mesure d'aller de
payer 100 dollars à tous les travailleurs
de payer 100 dollars, mais pour nous, c'est de l'aubaine. C'est de l'aubaine. La mesure dont on croit, je vais vous dire, mon frère, il y a de cela au moins 5 ans, ou si revenir à 99, nous avons négocié. Et nous avons trouvé un protocole d'accord ensemble, que tous nous avons signé. Ce protocole d'accord a des avantages pour les travailleurs. Mais alors, de quel droit que ce protocole d'accord a été mis en déroute? Nous allons maintenant avec le protocole de 2005. Dans le protocole d'accord de 2005, nous avons 550 francs salaire jour. Or, au départ, si vous pouvez avoir bonne mémoire, à l'époque, on allait se panier de la ménagère. Il fallait maintenant décortiquer tout ce que la ménagère peut avoir comme panier sur la provision de la maison d'une manière journalière. Si nous prenons les 550 francs congolais jour pour les manœuvres ordinaires, et ces messieurs avec toute sa famille, qu'est-ce qu'ils peuvent avoir comme alimentation chez la maison, peut-être repas à la maison.
Bon, on a compris, André et Mahati, que vous saluez évidemment en tant que travailleur ce salaire de 100 dollars, salaire minimum exigé par le gouverneur du Katanga. Comment vous réagissez, par exemple, à Mirugi Nestor, c'est un auditeur qui nous suit, et lui salue aussi la mesure du gouverneur Moïse Katumbi, mais conseille l'étude des dossiers cas par cas pour éviter de perdre des investisseurs. Comment vous réagissez à...
Le monsieur n'a pas tort de dire qu'il faut calculer, en fait, il faut étudier cas par cas. Mais pour le cas, en globalité, ce qu'il faudra dire, au moins, est-ce que ce salaire de 100 dollars, quand on répartit sur base des paniers de la ménagère, les 100 dollars, qu'est-ce que ça peut donner pour une famille? Donc, sachez que les Africains n'ont qu'une seule distraction, d'avoir seulement des enfants. Et quand on a d'enfants, puisqu'on n'a pas tout ce qu'il faut faire pour en faire l'unité des enfants, et alors bien les nourrir. Si un ouvrier, j'ai dit ma tension sans manœuvre.
Oui, mais est-ce que vous n'avez pas peur, justement, de vous avez subi dans l'élément proposé par notre confrère Paul Kaboba, il y a la Gécamine, par exemple, qui a du mal à payer ses 100 dollars.
C'est vrai, la Gécamine a du mal à payer 100 dollars. Vous savez ce qui a été, comment cette entreprise a été, c'était la vache au lait. Hein? Et puis cette vache-là, comment est-ce qu'on l'a associée? Et comment la Gécamine est devenue? Ce n'est pas le problème de paiement de salaire, mais plutôt la mauvaise gestion de l'entreprise qui a fait qu'elle n'arrive pas à payer son personnel.
Merci André Mahati. Autre mesure des autorités congolaises qui risque d'affecter l'emploi dans le secteur privé, c'est l'interdiction d'importation prévue dans un an par le ministre de Transport de véhicules avec volant à droite. Réaction en quelques secondes peut-être sur ce volet aussi de Marc Atibo Salé.
Bon, c'est un secteur que je ne maîtrise pas tellement, mais en tant qu'usager de la route, je donne raison au ministre du Transport pour du côté sécuritaire, du point de vue de la sécurité. Il y a quand même un problème avec ces gens de véhicules.
Pour les accidents.
Mais je pense que, j'espère qu'ils ont tenu compte de cela. À mon avis, je ne partage pas l'avis qu'il faut carrément jeter tous ces véhicules à la casse. mais je pense qu'on devrait commencer par prendre des mesures de protection en interdisant, par exemple, l'importation, des nouvelles importations de ces véhicules, et pendant ce temps, les véhicules qui sont déjà sur terrain seraient en train d'être liquidés. Parce que j'ai visité l'est du pays, Lubumbashi, Bukavu, Goma, et Kisangani, même au centre, Mbujima et Kananga, vous n'avez à 90% que ces véhicules-là.
Justement, c'est le point de vue de Ndeke Médard, un auditeur qui nous suit à Lubumbashi, et donc il aborde dans le même sens que vous.
Oui, c'est tout à fait vrai, parce que ça pose un problème. Il faut avoir la politique de remplacement. Comment on va remplacer ces véhicules? Parce que ce sont ces véhicules qui assurent, entre autres, les transports en commun de personnes, même les transports de biens. Donc, ça peut frapper même l'approvisionnement des pays. Mais je voudrais quand même, si vous me permettez juste une seconde, vous dire qu'en ce qui concerne les salaires, le SMIC, c'est un salaire fixé par les pouvoirs publics, en deçà duquel aucun travailleur ne peut payer. Mais nous, partenaires, parce que je vous ai dit que nous, c'est le dialogue social, à travers la Convention collective interprofessionnelle nationale du travail, nous avons ouvert la possibilité, les principes des salaires conventionnels, et si vous sillonnez dans un ou pas d'entreprise, oui, les salaires qui sont payés aujourd'hui sont des lois supérieures.
On va le voir peut-être dans cette deuxième partie, après tous ces problèmes soulevés par ces mesures des autorités congolaises et leurs conséquences sur l'emploi. Quelle stratégie pour protéger l'emploi en RDC? C'est la dernière partie de ce dialogue entre Congolais. Nous y allons sans transition. Environ 24 millions, c'est le nombre de Congolais actifs. Près d'un million d'entre eux, soit 4%, sont dans le formel. Pas encore de chiffres pour le pourcentage de ceux qui travaillent effectivement dans l'informel et ceux qui sont au chômage. Des études sont prévues pour ce faire. Alors, M. Boniface Bola, vous qui êtes secrétaire général du travail, quelle est la stratégie de la RDC pour protéger l'emploi?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste, de nous avoir offert cette opportunité. La meilleure stratégie de protéger l'emploi en République démocratique du Congo, à notre sens, c'est d'abord et avant toute chose, le respect de la loi. Aujourd'hui, en matière de l'emploi, nous avons notre code du travail qui est même apprécié par certains pays africains. Ce code-là, il ne protège pas seulement les travailleurs, mais aussi les employeurs.
Je pensais qu'il s'applique.
Donc, c'est ici l'occasion d'interpeller tous ces acteurs du monde du travail de s'en approprier. Ça, c'est de un. De deux, nous reconnaissons que depuis que nous sommes indépendants, nous n'avons pas une politique formellement définie en matière de l'emploi. Mais voilà que le gouvernement actuel, le premier gouvernement de la Troisième République, vient de nous offrir une occasion en or, c'est-à-dire la tenue du premier forum national sur l'emploi. L'emploi s'étant inscrit par la volonté du président de la République parmi les 5 chantiers du quinquennat, nous allons nous retrouver autour de ce forum, nous, c'est-à-dire qui? Tous les opérateurs du monde du travail, les ONG de développement, toute la société civile, donc la population active de la RDC, autour de ce forum, pour essayer de chercher des voies et moyens pouvoir nous permettre de créer, de promouvoir des emplois décents.
Oui, vous allez vous retrouver quand, monsieur Boniface?
Oui.
Vous allez vous retrouver quand pour ce forum?
Probablement, selon la volonté du gouvernement, vers le mois de septembre.
Donc, on comprend qu'il n'y a pas encore de politique de l'emploi de stratégie pour protéger l'emploi jusque-là.
Il n'y en a pas, mais il existe quand même quelques dispositifs juridiques. J'ai cité le code du travail, j'ai cité l'ordonnance 074 qui protège la main-d'œuvre nationale contre la concurrence étrangère et que la Commission nationale de l'emploi des étrangers est en train d'appliquer.
Voilà. On va avoir rapidement le point de vue de Marc Atibou Salé de la FEC là-dessus, rapidement.
La protection des emplois chez nous, à mon avis, ça passe par une chose. C'est de pouvoir créer un bon climat des affaires afin de mettre en confiance les investisseurs actuels et attirer davantage d'autres investisseurs.
Comment le créer?
Comment le créer? Oui. C'est-à-dire, primo, il faut d'abord raffermir la paix et la sécurité. dans tous les pays, parce que c'est important. Il faut assainir l'environnement économique et social, et il faut surtout assurer une bonne sécurité juridique et judiciaire. Voilà. Cela permettrait d'attirer, d'abord de sécuriser, de mettre en confiance les investisseurs qui sont sur place. Il peut augmenter les investissements, et c'est en regardant les investisseurs qui sont dans les pays que ceux qui sont à l'extérieur, qui veulent venir, peuvent également amener des investissements. Dans le
fait. Merci Marc Atibou. Nous allons encore vers les auditeurs avec Pamela Amonazo qui fait son entrée dans ce studio. Pamela.
Pour Florie Boukombe de Goma au Nord Kivu, Kinshasa ne pas le Congo, pourquoi la mesure du ministre se limite dans la capitale? Tous les employés ne sont-ils pas égaux? Mugondi Philippe de Mbandaka dans la province de l'Équateur pense que le gouvernement doit définir clairement sa politique en matière de l'emploi pour éviter l'exploitation abusive dont sont objets les employés. Yves Moutalé de Lubumbashi au Katanga estime que les mesures prises par le pouvoir central et le gouvernement Moïse Katumbi sont bonnes, mais ça serait mieux si cela commençait par des fonctionnaires. Enfin, Adrien Ilobakwei du Kananga au Kasaï occidental dit ceci, tant qu'il n'y aura pas une commission de suivi de toutes ces décisions, rien ne pourra être appliqué.
André Mati, vous vous retrouvez dans les opinions des auditeurs?
Oh, certainement.
Alors, vous dites quoi? Vous répondez quoi? Vous réagissez comment?
Pour les mesures, d'abord je vais commencer par le premier mesure.
Pour les mesures, par exemple, il y en a qui souhaitent que ça s'étende à toute la République.
Oui, cette mesure, par exemple, sur ces négociations qu'on vient de faire dans le secteur du commerce, ça ne concerne pas Kinshasa seulement. C'est pour toute la République. D'ailleurs, quand vous lisez les textes, ça parlait de toute la nation congolaise, c'est-à-dire toutes les provinces. Je voudrais dire au moins une chose.
Oui, allez rapidement parce qu'on tend vers la fin de l'émission.
Oui, plus rapidement, les mesures d'encadrement doivent être prises au niveau de toutes les provinces afin que tous ces opérateurs économiques qui sont égoïstes, ça, il faut qu'on soit sincère.
Ça vous engage?
Ça m'engage.
Oui.
Il faut qu'on soit sincère. Je suis à côté de mon confrère ici, qui est alors le syndicat d'employeurs. Si vous voyez, même si le SMIC ne pouvait pas exister, pour un employeur, la plupart des employeurs orientaux, vous trouverez qu'ils n'auront pas la seule possibilité de dire à un travailleur, je vous augmente, au lieu de 500 francs, je vous ajoute 300 francs là-dessus.
Oui, André, concluez parce que vous n'avez pas tout le temps.
Oui, à la fin de l'émission. Je conclue pour dire, il y a des essais jusqu'alors qui touchent 30 dollars le mois dans les secteurs du commerce là où nous sommes.
Oui. Voilà, on va avoir la réaction de Boniface Bola en quelques 10 secondes aux opinions des auditeurs.
D'abord, en ce qui concerne l'exécution de ces mesures, nous savons que parmi les employeurs ou les établissements qui ont signé ces protocoles d'accord, certains ont leurs ramifications à travers la République. Et notre souhait le plus ardent, c'est que le code du travail et les lois et les règlements en matière du travail soient respectés partout à travers la République. Maintenant que nous avons des assurances de la part de nos partenaires, nous allons poursuivre cet effort pour que vraiment qu'on essaie de revaloriser l'employeur et l'employé congolais.
Oui, vous allez le faire aussi au niveau des travailleurs des entreprises publiques?
Je vous avais dit que tous ceux qui sont régis par les dispositions du Code du travail seront concernés par toutes ces mesures.
Voilà, on va terminer par Marc Atibou. Réaction.
Une réaction, c'est que je m'inscris en faux contre ce que le collègue a dit, que cette mesure s'applique dans toute la République. Il a peut-être oublié les termes de notre protocole d'accord. Il ne s'applique même pas dans toute la ville de Kinshasa. Le protocole d'accord dit bien qu'il s'applique dans le secteur commerce de la ville de Kinshasa et uniquement les entreprises qui ne disposent pas d'une convention collective. On ne peut pas l'appliquer dans les autres provinces. Ça, je m'inscris en
fait. Même pas dans les magasins qui sont à Kinshasa mais qui ont des ramifications dans les provinces.
Non, c'est un protocole d'accord signé pour la ville de Kinshasa et dans des circonstances précises. Je m'inscris en faux. Voilà.
5 secondes si vous voulez réagir, mais sinon...
La discrimination sociale. Je voudrais dire, le même employeur qui se trouve à Kinshasa qui paye $100, par exemple, et qui se retrouve en Bujumbura et qui paye $25, et alors il est calme.
Voilà, merci. C'est par là que nous mettons fin à ce dialogue entre Congolais. Évidemment, le débat reste ouvert. Merci à tous de nous avoir suivis. Cette émission a été réalisée par Kelly Nkouté et à la mise en onde Eric Sidiakala. Au revoir à tous. Bonne suite de programme sur Radio Okapi.